Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Lepolarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour. Et merci Hervé d'être fidèle à notre rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, chose promise, chose due, les confidences d'un ex-chercheur en sociologie qui a trouvé sa voie dans le roman noir, avec Mon ennemi intérieur de Marin Le Dain aux éditions du Petit Écart. Et puis nous irons faire un petit tour dans les coulisses de la guerre d'Algérie avec Requiem pour une république de Thomas Cantaloub à la série noire. Voilà, avec Mon ennemi intérieur, qui n'est ni une fiction, ni une introspection, peut-être simplement des confidences, comme dit en introduction. Marin Le Dain revient sur son parcours pour tenter de comprendre le cheminement qui l'a amené à écrire du noir. Alors Hervé, je sais que tu es très proche de Marin Le Dain. Revenons sur ce cheminement de Marin Le Dain, qui a été donc chercheur, sociologue pour France Télécom.
Oui, il faut dire, comme tu l'as esquissé, il faut dire que pour répondre à la question qui ouvre cet essai, pourquoi écrivez-vous du roman noir, la question qu'on lui pose souvent, comme à d'autres, Marin Le Dain va faire intervenir ce qu'il appelle son histoire minuscule, son parcours universitaire et professionnel et politique aussi. Évidemment, ça n'est pas par prétention, par égocentrisme, etc. Mais j'allais dire, enfin moi je l'ai lu comme ça, que c'était un peu une lucidité, une méthodologie pour éclairer la démarche de l'écrivain et de l'écriture de romans noirs. Après quelques pages d'ailleurs, il nous dit, on est en 2006, on est à Grenoble, et il nous dit, j'entre pour la première fois dans le cabinet d'une psychiatre, il nous précise qu'il n'est pas le seul. Alors, tout petit retour en arrière rapide, en 2000, Marin Le Dain, qui a fait des études de sciences de l'information et de la communication, il est chercheur en, je crois que c'est en sociologie des usages, il mène une thèse, il intègre le centre recherche et développement de France Télécom, où il va être pris en CDI en 2004. Et là, il va être pris par un malaise grandissant, de plus en plus violent, qui va conduire à de la dépression pour lui comme bon nombre d'autres.
Oui, il est en pleine tourmente dans France Télécom, hein, avec une vague importante de suicides.
Il définit d'ailleurs ce malaise, un malaise qui est en lien direct avec l'accélération des réorganisations, le management par le stress, l'évaluation individuelle des compétences, les mobilités forcées, les plans de départ volontaires à la retraite, les changements de métiers radicaux, etc. Notre quotidien s'accélère, nos journées se rallongent, nos soirées et nos week-ends se raccourcissent. le prix à payer pour rester dans la course. Et on sait que dans cette deuxième partie des années 2000, une série de suicides vont se produire à France Télécom. C'est donc Marin Le Dain connaît est touché par la souffrance au travail. Cette dépression, on peut la lier à aussi une certaine, là le mot de dépression serait peut-être fort, mais une certaine déprime politique, je dirais, puisque parallèlement, Marin est syndicaliste à Sud Solidaire. Il est militant LCR et puis il rejoint au milieu des années 2000, je crois qu'on appelait ce qu'on appelait les collectifs unitaires antilibéraux, qui s'étaient constitués à la suite du nom de gauche, précisons-le, au traité constituel européen de 2005, je crois, et également, évidemment, à la grande mobilisation qu'il y avait eu contre le contrat première embauche. Et il y avait une espèce d'espoir comme ça de recomposition large et unitaire dans la vraie gauche, disons. Et puis, en 2007, il y a l'échec, puisqu'il y avait eu une volonté de présenter un candidat unitaire à la présidentielle de 2007. Et disons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, différentes organisations ayant voulu sans doute tirer la couverture à elles, enfin, tout ça se termine dans un fiasco complet. Et tout ça n'aura pas d'avenir. Il est évident que tout ça joue un rôle. En tout cas, Marin Le Dain a touché de près une contradiction très forte qui est à la fois dans son engagement de dénoncer les choix économiques, politiques, qui amène des entreprises comme celle où il travaille, France Télécom, à broyer des hommes et des femmes, et en même temps à contribuer à cela en y travaillant. Tout ça crée son ennemi intérieur.
Une injonction et paradoxale.
Voilà, absolument. C'est le terme, je crois que c'est le terme psychologique, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais c'est lui qui le dit, hein, dans son dans le tout début de son livre, lorsqu'il rencontre effectivement des psychologues pour l'aider justement à sortir de cette situation.
Et juste, je vais ajouter, c'est intéressant parce que y compris la manière dont se fait le passage à l'écriture, il est pendant des mois, je crois, qu'il a pas à France Télécom, il a partagé un bureau avec une jeune femme, une chercheuse en nanotechnologie, je crois, et qui essaie de concevoir un enfant par fécondation in vitro. Cela fait l'objet de nombreuses discussions entre eux. Cela intéresse beaucoup Marin Le Dain. Et il prend des notes, il va aller plus loin, écrire un chapitre. Et en fait, tout ça va donner son premier roman, en fait, Modus Operandi, qu'il publie au Diable Vauvert en 2007. Au moment aussi où il démissionne.
Oui, parce que donc voilà, donc sortir de cette dépression, en fin de compte pour lui c'est tout quitter, hein, donc il quitte bien entendu l'entreprise, il quitte aussi la région, il change de région, il va s'installer dans les Landes, il refuse aussi il le dit, hein, dans son dans le livre, un poste de maître de conférence à l'université de Bordeaux. Il fait vraiment le choix d'une autre vie, hein, d'une vie complètement alternative pour lui permettre d'être en cohérence dans sa vie quotidienne avec ses aspirations.
Complètement, et une démarche qui va justement le conduire à se consacrer à l'écriture et aux très nombreuses rencontres que cette écriture provoque et qui d'ailleurs amène à l'écriture d'un tel livre. Il faut saluer que c'est quand même une chose, à mon avis, assez rare, c'est-à-dire que d'écrire pour tenter de comprendre et d'expliquer la démarche du romancier de roman noir. J'ai trouvé on revient à mon ennemi intérieur, mais j'ai trouvé un écho très fort à Thierry Jonquet avait écrit un texte pour un numéro des Temps modernes, mais qui a été repris dans le recueil de nouvelles 400 coups de ciseaux chez Point. Il avait écrit un texte qui s'appelait justement Voilà comment ça s'est passé, qui correspond assez à la démarche de Marin, et il expliquait lui que l'ergothérapeute qu'il était au centre de gériatrie, dans un centre de gériatrie, enfin un vrai mouroir en fait, mêlé d'ailleurs à son militantisme de l'époque à la LCR, l'avait conduit à écrire son premier roman, Le bal des débris, voilà.
Alors effectivement, merci pour ce lien, et puis la possibilité d'évoquer Thierry Jonquet. Je pense que Marin Le Dain sera fier de ce lien que tu établis. Et oui, donc aujourd'hui, depuis la publication de ce premier roman, donc tu dis en 2007, Marin Le Dain en a une vingtaine à son actif, hein, donc il s'est vraiment lancé dans l'écriture de manière très intensive, avec pas mal de succès, et notamment donc un de ses romans qui a obtenu le prix Amila Mecker il y a 4 ou 5 ans, L'homme qui a vu l'homme. Voilà. Et puis aussi Les visages écrasés. Je pense que c'est un roman dont on a beaucoup parlé, puisqu'il a été ensuite adapté au cinéma ou à la télévision, je ne sais plus, mais en tout cas
sous le titre de Carole Mathieu, voilà. Avec Isabelle Adjani.
Avec Isabelle Adjani dans le rôle de.
C'est passé à la télé aussi d'ailleurs. Et Les visages écrasés, qui justement est un retour sur c'est sur la souffrance au travail, à travers une médecin du travail par laquelle passent tous les conflits à l'intérieur de l'entreprise, donc il va vouloir les résoudre d'une manière radicale que je ne raconterai pas, et évidemment qui est un écho à l'expérience vécue par Marin Le Dain lui-même, livre qui d'ailleurs qu'a provoqué aussi, et ce dont je crois Marin est content aussi, c'est-à-dire des rencontres, y compris, je me souviens de rencontres, ou avec la sociologue Danielle Linhart, ou avec, et du public évidemment, et ou avec des ouvriers de Peugeot-Montbéliard, enfin voilà, confrontant les expériences des uns et des autres.
Alors donc, puisqu'on parle de ces romans, citons tout de suite, Hervé, un roman, enfin une novella qui sort fin février, on est en pleine actualité.
Elle sort aujourd'hui, je crois.
Voilà, oui, nous enregistrons l'émission ce jeudi 28, et donc, c'est vrai, hein, donc c'est en librairie le 28 février. Alors je te laisse le présenter, ce livre.
Juste en dire deux mots, on en reparlera peut-être brièvement. Oui. Ça s'appelle Aucune bête, c'est dans la collection Polaroid de Novella dont on a déjà parlé ici, dirigée par Marc Villard. Et là, il s'agit de courses de fond. Et il y a deux personnages féminins qui sont il va y avoir de la concurrence, différentes méthodes, il y a c'est une novella noire très 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 forte, mais je préfère vous laisser la découvrir,
on en reparlera. Alors tout ça pour quand même réaffirmer, puisque tu l'as dit, c'est ce dernier livre, cette novella, donc aux éditions Inuit, dans la collection Polaroid. Marin Le Dain a aussi signé des romans à la série noire. Il a fait le choix clairement du noir, et le petit, je dis le petit, c'est par la taille, hein, le petit livre Mon ennemi intérieur, d'ailleurs dont il est question aujourd'hui dans Variation en noir, en fin de compte, c'est, tu l'as dit, effectivement, pour Marin Lodard, répondre à la question qui lui est très souvent posée, pourquoi écrire du noir. Et alors bon, je pense que Marin Lodard explore complètement ce qui l'a amené à écrire du roman noir. Et la première explication, c'est que lui-même, il lit du roman noir. Il a lu, beaucoup lu, et il lit du roman noir pour ce qu'il m'apporte, et écrit-il, et qu'il entend partager. Le noir me parle d'un monde en crise dans lequel nous vivons. Il m'offre des clés de compréhension. Il m'aide à y voir plus clair, à débusquer les peurs et les colères, et à les décortiquer. Ces histoires fortes me procurent le sentiment inouï de ne pas être le seul à bouillonner de l'intérieur, à me révolter contre les injustices et les dégâts causés par les sociétés humaines. Alors ça, c'est le point de départ, mais qui donne beaucoup de clés en fin de compte, des explications qui vont suivre les explications de Marin Lodard. Hervé.
Bah écoute, oui, je pense que c'est dans la, je sais pas comment dire ça, ça se situe effectivement dans ce choix du noir. Il se situe dans la ligne d'une littérature je sais pas comment, oui, enfin voilà. Et à mon avis, à la suite de Manchette, je dirais, c'est une littérature qui est qui vient à la fois du côté français des grands auteurs de la fin du 19e, du naturalisme, du réalisme, et puis des auteurs du Grand Ouest américain, les auteurs d'aventure comme les Fenimore Cooper, et puis les auteurs qui ont été à la fondation du roman noir américain au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec ce côté absolument inextricable, je pense, il en parle aussi, c'est-à-dire de raconter des histoires. De raconter des aventures, cela a son importance, ça a le côté qu'on pourrait dire de divertissement.
Oui, oui, oui. Il évoque cet aspect. Hein, il considère, oui, en fin de compte, que les deux, l'aspect divertissement et l'aspect aide à la compréhension de la société qui nous entoure, coexistent pour lui,
oui,
dans le roman noir.
Il y a un moment, divertir et réfléchir ne sont pas antinomiques. Mm-hmm. Cette idée qu'ils vont de pair, c'est à la fois un peu la distanciation par rapport à une littérature qui serait auto-centrée, comme on en a eu pas mal ici, et ou alors une littérature qui serait purement engagée, stalinienne, aurait dit les staliniens, c'est-à-dire que qui soit au service d'une idée et donc étriquée quand même, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est une littérature qui a du souffle et qui, je sais pas, un très bon exemple, à mon avis, je pense pas que ça lui déplairait, c'est les romans américains, je vais même sortir de la classification polar ou noir, comme Les raisins de la colère de Steinbeck, oui, ou comme les romans d'Erskine Caldwell. C'est cette tradition-là qui, avec quelqu'un qui nous est cher comme Jean Mecker, et puis après avec toute la tendance qui s'est esquissée après Jean-Patrick Manchette, qui fait aller de pair le romanesque et une littérature témoin de son temps.
Tout à fait, hein. Et tu l'as dit, pour lui, il ne considère pas contribuer à une littérature engagée. Pour lui, l'impact de ses romans n'est pas lié à la mise en œuvre d'un changement, de transformation sociale, d'action d'action radicale et révolutionnaire. C'est pas du tout ça, quoi. Il est vraiment dans cet esprit. On l'a dit, on le redit. Divertissement pour lui, c'est quand même important. Et regard, donner des clés pour comprendre. Alors souvent, quand on pose la question aux écrivains de romans noirs, pourquoi écrivez-vous du roman noir, sous-jacente à cette question l'aspect, mais bon, le crime, violence gratuite, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un côté masochiste, quoi, à la fois des écrivains et des lecteurs? Et là-dessus, je pense qu'il est aussi très clair par rapport à la question du rapport au crime, à la violence. Il écrit: de quel crime parle-t-on en littérature policière au pluriel? Voilà le nœud gordien de l'histoire. Le roman noir est politique parce que son auteur regarde d'abord le crime comme l'effet d'une violence sociale et économique, là où le roman policier n'y voit que la conséquence d'une déviance individuelle psychique, d'un trouble de l'ordre. Donc, dans ce nœud gordien, lui a fait vraiment le choix du roman noir.
Oui, bien évidemment, il analyse ça très bien. C'est toute la différence avec, j'allais dire ce qui s'appelle le thriller, en tout cas pur et dur, qui est un peu comme un héritier du roman policier classique, finalement, même s'il est plus haletant, mais qui est en fait un roman où on montre une déviance qui est extérieure et où le roman va être une espèce de retour à l'ordre, quelles que soient les violences qu'on pourra constater à l'intérieur. Le roman noir, il est un roman d'un désordre, si ce n'est d'un chaos, qui est celui du monde que l'on vit, et qui est évidemment chaos qui est produit par les puissances qui mènent ce monde et les exploitations qui s'y font jour. À partir de là, il y a une multitude d'histoires et de personnages possibles, et ce qui est quand même extrêmement important, et ça je pense que Marin ne le perd jamais de vue, c'est le point de vue de l'auteur, qui n'est pas la même chose que servir une thèse ou un engagement, hein, comme on disait, mais qui est d'adopter un point de vue. Et il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi Marin Le Dain, il cite à un moment Howard Zinn.
Justement page 42 et j'allais y venir, on est effectivement en plein dedans, mais je te laisse, vas-y Hervé.
Tu peux y aller justement.
Je voulais aussi, parce que ce qui est très important pour Marin Le Dain, c'est un roman noir qui se penche sur l'histoire des gens, en fin de compte.
Oui.
Et donc il cite Howard Zinn, auteur d'une histoire populaire de l'Amérique, un bouquin d'historien, oui. Histoire justement populaire de l'Amérique qui fait référence. Et donc je te laisse citer Marin Le Dain qui cite Howard Zinn, Hervé.
Il cite Howard Zinn dans une histoire populaire des États-Unis, publiée chez Agon, Howard Zinn écrit: tant que les lapins n'auront pas d'histoire, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Et ça me paraît, c'est là aussi un écho très fort à cette littérature. Je parlais de Steinbeck tout à l'heure, mais aussi par exemple quelqu'un qui a écrit des romans noirs comme Horace McCoy qui est connu pour le film qui a donné On achève bien les chevaux, etc., etc. C'est-à-dire que c'est une des originalités et grandes forces du roman noir, c'est d'être un roman des laissés pour compte, un roman de ceux qu'on peut considérer comme des perdants. Et justement, je crois que c'est Marin qui l'écrit, le roman noir prend le temps de nous raconter une autre histoire pour contrebalancer la version officielle.
Voilà. Un romancier, finalement, historien, qui donne la parole au lapin de... d'Auverzy. Alors Hervé, donc beaucoup de choses à dire sur ce texte. Nous arrêterons là pour aujourd'hui. Signalons donc qu'il est publié aux éditions du Petit Écart. Donc et signalons
oui,
aussi.
Oui, on peut dire quand même que c'est. Il faut saluer cette maison d'édition qui est petite, mais ce qui n'est pas évidemment pas péjoratif, qui propose à des écrivains de faire justement un petit écart, de parler de quelque chose, d'un sujet qui leur est cher, qui leur est intime. Il y a eu La trace du héron de Pascal Dessin, Lettre à B de Patrick Pêchereau, il y a Mon ennemi intérieur de Marin Le Dain, il va y avoir, je crois que le prochain sera un petit livre de Jean Rouault.
Voilà.
Ce sont par ailleurs, enfin tu, toi comme moi les avons sous les yeux, ce sont des livres qui sont aussi des beaux livres dans leur fabrication.
Il faut citer le Léopold qui signe l'illustration de couverture qui est magnifique hein, pour ce
magnifique. Oui, absolument.
Alors citons aussi la dernière page donc de page de l'éditeur. 1er mai 2017, Grand Place d'Arras, petit matin frisqué d'un printemps encore plus vieux. Le festival Colère du présent ne gronde pas encore. Il se réveille, c'est l'heure du café. Marin est là, sa veste en cuir n'est pas de trop. Je lui confie mon envie de petit écart. La trace du héron est en cours, lettre B encore au chaud. Dans la tête de son auteur, alors un petit écart, ça te dit. Voilà, donc un livre qui est né à Arras un 1er mai 2017, Hervé.
Tout à fait. Ça, c'est aussi les magies du Salon du Livre d'Expression Populaire, je crois. Et puis, pour terminer, la phrase que les éditions ont choisi de mettre au dos de ce très joli livre... Je crois que c'est bien, en plus. Le noir est une affaire sérieuse qui, à la lumière des codes du polar, ne se prend jamais au sérieux.
C'était Radio PFM, Variation en noir dans Variation. Jim Jones, je pense que c'est un choix musical qui pourrait plaire à Marin Le Dain, qui est fan de musique bien rock, bien métal. Hervé, c'est ce que tu m'as...
On avait avait trouvé un vieux type de Cat Stevens. Il y a des chances, oui.
Oui, et donc, bah, c'est le dernier disque de Jim Jones, alors qu'il n'y a plus Jim Jones revu, qui a donné, avec un de ses titres, l'indicatif principal de variation en noir. Donc voilà, ça s'appelle Super Natural, Jim Jones. Hervé, quelques mots très rapidement. Une très très bonne série noire que nous avions envie de faire partager aux auditrices, aux auditeurs de PFM. Thomas Cantaloube, Roquiem pour une République.
Eh bien, oui, Cantaloube, Requiem pour une République, premier roman, je crois, de l'auteur, qui est journaliste à Mediapart. Hein. C'est vraiment une belle découverte parce que c'est un roman de, je crois, il y a 500 pages à peu près, qui se situe dans un laps de temps entre 1959-1962, qui est raconté alternativement à travers trois personnages et qui nous plonge qui nous replonge dans ce qu'on n'appelait pas encore la guerre d'Algérie, qui nous plonge dans les arcanes, les manipulations, les coups tordus du pouvoir gaulliste, qui est un véritable roman d'aventure aussi.
Oui, avec beaucoup de rebondissements. On croise aussi des personnalités connues, François Mitterrand, Jean-Marie Le Pen, ou d'autres qui sont légèrement masqués.
Ceux qui ont aussi créé et animé le service d'action civique, très connu, de Bizet, puis également, je crois, un ancien représentant d'une maison de pastis, comme tu dis, un jeune acteur, qui est présent sous un anagramme exact.
Voilà.
On y croise aussi, il n'est pas cité, mais on reconnaît aisément, et puis les studios de la rue Génère dans le 13e,
voilà.
C'était le studio de Jean-Pierre Melville. Mais tout ça n'est pas comme on collerait des vignettes, de même que l'époque n'est pas non plus une reconstitution lourde en costume. Tout ça est, je trouve, on ressent avec des petites notes comme ça, on ressent très fortement l'atmosphère de l'époque. Les personnages sont en mouvement, c'est-à-dire y compris les personnages réels, ils sont tout et d'une authenticité, pas comme une reconstitution, mais dans une authenticité, on les voit vivre l'attentat entre guillemets dont est victime Mitterrand, enfin des choses, les rencontres d'un des personnages avec lui, Le Pen, mais peut-être je te laisse en dire deux mots, il y a ces trois personnages, Antoine Carrega, Sirius Volks et Luc Blanchard, qui sont très intéressants parce que également plein de paradoxes, de chassés-croisés.
Tout à fait, tout part du meurtre d'un avocat algérien à Paris, mais qui est plus qu'un meurtre, puisqu'il y a, c'est un massacre, sa famille est massacrée, et donc sa femme, les enfants, et la femme de cet avocat a un père qui est un ancien résistant, mais bon, le côté très haute bourgeoisie qui s'est aussi engagé dans la résistance, et donc il va, et je trouve que ça c'est très très intéressant dans le livre, qui va justement établir le lien avec un de ses anciens un des anciens membres de son groupe qui lui est sur un chemin qui est sur un chemin complètement différent, qui est dans le milieu
oui,
corse, et c'est intéressant de montrer ces liens, ces complicités qui ont dépassé tout un tas de à la fois des classes sociales, des manières de se comporter dans la société, parce que
politiques ou des choix partisans, oui.
Tout à fait. Et parce qu'on est dans les années 60.
On ne fera pas plus, mais on va voir qu'il y a des... Voilà, complètement, la période de l'occupation et de la résistance et comment les gens s'y sont comportés à l'époque est encore très, très présente. Ça joue un grand rôle dans le...
Oui,
dans
c'est
le
15 ans, 15 ans après. Hein, on est dans les années... tout
absolument,
début des années 60.
Absolument.
Et des solidarités, Hervé, aussi, dans l'autre camp.
Absolument aussi, dans l'autre camp également, à un moment, je me demande si c'est pas Volkskram qui dit ça, mais peut-être je me trompe, mais il y aura cette exclamation, parce que tous ces chassés-croisés, ces retournements montent jusqu'au plus haut du pouvoir, puisque un personnage en tout cas s'écrit « Ces politicards qui nous gouvernent n'ont pas de principe, De Gaulle est revenu aux affaires, porté par des médiocres et des minables, il a choisi de les garder à ses côtés ». Il s'est entouré de requins au nom de la raison d'État. Je trouve que c'est aussi un livre tout en étant un roman d'aventure extrêmement bien mené, extrêmement dynamique, est aussi un livre qui parle de la raison d'État, puisque Maurice Papon, qui est quand même assez présent, en est un exemple assez criant.
Alors pour conclure et boucler la boucle avec Mara Lodin, on est vraiment dans un livre qui divertit et qui fait réfléchir.
Ben complètement, on est complètement là-dedans et c'est ça. J'ajouterais quand même une chose pour aller très vite. J'ai découvert depuis d'ailleurs que le livre, le polar fétiche de Cantaloupe, j'ai vu ça dans sa fiche pour le festival Kelly Polar à venir, c'est Les Racines du Mal de Dantec. Et c'est assez intéressant parce qu'avant j'avais pensé que c'était aussi un livre qui allait chercher les racines d'un mal contemporain, parce qu'il y a les trois personnages dont on a parlé, plus toutes les célébrités, mais il y a aussi les invisibles, ceux qu'à l'époque on appelle les bougnoules, et à qui on peut d'ailleurs imputer les méfaits et les crimes, comme un attentat à un moment contre le préfet de police, comme cette femme violée qui va accuser des Arabes par commodité, disons. Je disais, va chercher les racines du mal, parce que j'ai été frappé par cet exergue qui est un extrait d'une interview de Pierre Jox en 2016, et où il dit aujourd'hui la France n'est pas loin d'avoir une angoisse post-coloniale comparable aux angoisses décolonisatrices qu'elle a connues. L'histoire d'un peuple est globale, elle est l'histoire des générations d'avant, et c'est dans ces populations d'origine postcoloniale que l'on trouve des victimes de toute nature, des victimes du colonialisme de jadis, des victimes de la ségrégation d'aujourd'hui. Je pense aussi que c'est un livre qui fait qui parle d'une période qui passé, mais qui en même temps ne le fait pas comme une espèce de livre simplement rétro du tout. Je pense que s'y applique très bien ce que notre cher Jean Mecker disait dans une interview: écrire, c'est revenir sur l'histoire pour l'éclairer et lui donner un sens. Moi, je suis l'étincelle. Je pense que Cantaloupe est aussi une étincelle.
Voilà donc Requiem pour une République de Thomas Cantaloupe à la Série Noire. Nous avons aussi beaucoup parlé de Marin Ledin, Mon ennemi intérieur, aux éditions du Petit Écart. Si vous voulez vous procurer ce livre, il faut contacter les éditions du Petit Écart. Vous trouverez ça sur Internet. C'était Variation en Noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec Puissant 13, Association des Amis des Littérature policière, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir, Guy.
Et rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir. D'ici là, de très bonnes lectures à toutes et à tous.